Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Vous savez, quand je méditais beaucoup hier, toute la journée, je passe la journée en prière, puis je méditais beaucoup, puis je me rappelais d'un chant qu'on chantait il y a très, très longtemps, que les jeunes apprécieraient peut-être moins un petit peu aujourd'hui, mais on chantait « La plus grande chose dans ma vie, c'est te connaître. La plus grande chose dans ma vie, c'est te connaître toujours plus, te connaître toujours plus. La plus grande chose dans ma vie, c'est te connaître. » Puis on chantait ça, puis à chaque fois qu'on le chantait, en dedans de moi, c'était « Oui, le connaître toujours plus. » Il y a beaucoup de gens qui connaissent à propos de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, dans 1 Jean 3:8, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Premièrement, ça, c'était très important de détruire les œuvres du diable. Puis comme j'ai déjà dit, il s'attend que nous, on va les maintenir comme il les a détruits. Amen. Il s'attend que nous autres, on va se tenir à la place pour vraiment continuer de faire ce que lui a fait. Amen. Mais la deuxième chose qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu nous faire connaître Dieu. Il dit, toutes les choses que je fais, c'est le Père en moi qui les fait. Puis quand il envoyait les 12, puis après ça, il envoyait les 70, il a dit, allez, puis parlez-leur, allez prêcher le royaume de Dieu. Puis comme j'ai déjà dit, un jeudi matin, peut-être ici un dimanche aussi, quand il allait prêcher le royaume de Dieu, il pouvait pas prêcher la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, parce que Jésus est encore là avec eux autres. C'est pas fait. Donc, qu'est-ce qu'il allait prêcher? Il allait prêcher Dieu. Qui est Dieu? Pour que le monde connaisse Dieu. Et même Jésus a dit, « Je t'ai fait connaître au monde. » Amen. Et puis, Jésus, il a tout fait. Puis même par ses œuvres, pour que le monde connaisse qui est vraiment Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Puis je méditais, puis je me suis adonnée à relire des choses qui s'étaient passées lorsque Marie-France, Dr. Varello, est venue ici en 2005. Et puis dans ce temps-là, l'église ici n'était pas construite. Et puis, Dr. Varello a parlé avec moi, puis elle me posait beaucoup de questions, parce que, comme prophète de Dieu, elle était très sensible au Québec, et quand elle arrive d'un endroit, elle devient très sensible aux besoins de l'endroit, du pays, de la province, peu importe, de la ville où elle est. Et puis, elle m'écoutait parler, et puis, elle me posait beaucoup de questions, parce qu'elle était quand même très impressionnée de voir où on en était rendu dans le temps avec les choses, puis de voir que la connexion qui s'était faite avec elle pour qu'elle vienne, parce qu'elle est quand même une femme qui est allée partout dans le monde, et puis qui a un gros ministère international, et puis... Lorsqu'on lui parlait de comment on est arrivé ici à Sherbrooke avec absolument rien, zéro, 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 et qu'on n'avait pas non plus de ministère en arrière de nous autres qui nous supportait financièrement ou peu importe. Et puis là, je lui disais, j'ai dit, moi, si ça passe pas par une porte, j'en trouve une autre. C'est bien de valeur, mais un non, je refuse ça. Quand ça n'a pas marché d'une façon, on va réessayer d'une autre façon. Mais j'ai dit, j'arrive au bout de qu'est-ce que Dieu nous dit de faire. Puis elle me dit deux choses. Elle dit, c'est parce que tu as de l'assurance que tu peux faire ça, parce que tu connais le caractère de Dieu. Puis j'ai beaucoup, beaucoup médité là-dessus. Elle dit, tu connais les voies de Dieu. C'est parce que tu connais Dieu que tu as de l'assurance comme ça, puis que tu es capable de foncer. Tu connais pas à propos de Dieu. Elle dit, tu connais Dieu. Et puis, j'ai médité beaucoup là-dessus, parce que je me disais, parce que j'ai, premièrement, j'ai été dans la parole de Dieu. On va juste aller à 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Et puis, je veux juste regarder à propos de l'apôtre Paul, tout ce qui peut avoir passé au travers. Et puis, si je commence au verset 23, il dit, « Sont-ils ministres de Christ? » J'en parle en termes extravagants. Je le suis plus qu'eux. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Et puis, il y a tout défilé, les problèmes, les difficultés, les périls, sa vie était continuellement en danger. Alors, l'apôtre Paul, on peut voir dans ce chapitre tout ce qui peut avoir passé au travers. Mais malgré cela, on va aller à Romains 8. Vous savez que l'apôtre Paul a fini sa course. Puis il l'a fini avec joie pour ça. Puis il a dit, il savait aussi qu'il avait tout accompli ce que Dieu lui avait dit de faire. Vous savez, il y a plusieurs ministres de Dieu, puis peut-être que je me compte aussi moi-même là-dedans, que quand on va arriver à la fin de nos jours, on n'aura peut-être même pas rentré dans la première phase du ministère que Dieu nous avait vraiment dit de faire. Mais lui, il a fini sa course. Puis il dit, la couronne à mes réservés, je l'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Et je l'ai fait avec joie. Mais vous savez, l'apôtre Paul, il dit, on va lire au verset 28 de Romains 8, il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voyez-vous, on vient de lire que partout où il était, il était en péril. Partout. Il était en péril sur la mer, en péril dans les villes, en péril avec sa nation à lui, sa maison, en péril parmi les faux frères, en péril ici. Il a été battu de verge, il a été emprisonné. Ça, c'est l'apôtre Paul. On vient de voir tout ce qu'il peut avoir passé au travers. Puis lui-même, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, malgré tout, ça l'a concouru au bien pareil. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Puis ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes choses, de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Vous savez, il a fini sa course, puis il s'est rendu au bout. Puis malgré toutes les calamités qu'il peut avoir fait face, il dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et au verset 37, il dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Autrement dit, exactement ce qu'on a chanté, « Je sais que tu m'aimes. » Amen. L'apôtre Paul, il dit, « Mais dans toutes ces choses, peu importe ce que je peux avoir passé au travers, peu importe que j'ai été lapidé et que j'ai été 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, puis je suis revenu, ça veut dire qu'il était mort puis il est ressuscité. Et puis, toutes ces choses, il dit, dans toutes ces choses, je suis quand même plus que vainqueur, car j'ai l'assurance. » Puis quand je lisais ces versets-là, je me disais, c'est ça comme Marie-France a disait, et que a dit, tu as de l'assurance, car tu connais Dieu. Tu connais les voies de Dieu. Puis l'apôtre Paul, c'est exactement ça qu'il dit ici. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra me séparer, que je connais Dieu, que je sais que Dieu m'aime. Amen. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est rien ne pourra me séparer que je sais que Dieu m'aime. Autrement dit, que je le connais. Je connais Dieu. Amen. J'ai développé une relation. Même si des fois j'étais en péril, j'avais une relation avec Dieu, puis je le savais qu'il me ferait sortir de cela. Même si j'étais dans l'abîme, je suis revenue parce que je connais Dieu, puis je le savais qu'il me secourt continuellement. Même si j'étais fouettée, mise en prison, j'avais de l'assurance pareil parce que je connais Dieu. Amen. Ça se développe une relation avec Dieu. Amen. Et depuis ce temps-là, moi, j'ai toujours vu l'importance d'amener les gens à connaître Dieu. Pas connaître à propos de Dieu. Parce que la parole de Dieu qu'on prêche ici à l'Église sur le roc va toujours vous emmener à prendre une décision. Va toujours vous positionner à être obligé de faire quelque chose. Parce qu'en Dieu, on n'est pas des paresseux. Amen. Ça va toujours vous positionner à dire, bon, ben là, j'ai le choix. Soit que je pardonne ou que je ne pardonne pas. Bon, j'ai le choix. Ça va toujours vous placer dans une position à prendre des décisions. Amen. Et d'avoir de l'assurance. Parce que je vous place dans une position de connaître Dieu. De le mettre au défi, de mettre sa parole entre vous et lui et de vous appuyer sur lui puis de développer une confiance en lui. C'est ça le désir de mon cœur, que vous le connaissiez comme je le connais. Exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait. Il disait à Philippe un jour, il disait, mais tu veux que je te montre le Père? Mais tu ne l'as jamais vu? Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. J'ai toujours tout fait pour que vous connaissiez le Père. Et si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres, parce que c'est le Père qui fait ces choses-là. Il a toujours voulu démontrer comment était le Père, qui était le Père, connaître le Père. Amen. Pour que les gens développent une relation avec Dieu le Père. Amen. Alors, on peut, les deux choses qu'on doit atteindre, c'est avoir de l'assurance parce qu'on le connaît. Le monde, ils vont dire, t'es audacieuse. Oui, parce que je le connais. Amen. Parce que je développe une relation avec Dieu, je peux le voir à l'œuvre. Et vous savez, l'apôtre Paul, j'ai lu les calamités, mais quand il est en prison, et puis lui, il continuait de se confier en Dieu parce qu'il connaissait, eh bien, les fondements de la prison tremblaient, et puis les portes s'ouvraient, puis il était libéré. Il voyait Dieu à l'œuvre. Amen. Connaître Dieu. Alors, je n'ai pas fini d'enseigner à propos de développer une relation avec Dieu, puis à propos de l'amener, de vous amener à pas juste entendre parler de lui, mais à le connaître, amen, comme vous devez le connaître. Voyez-vous, dans Hébreux 3, on a prêché là-dessus 4 mercredis de fil à propos de ne pas endurcir notre cœur. Et puis, dans Hébreux 3, la parole de Dieu nous dit au verset 10, à propos des Israélites, parce qu'il était vraiment déplaisant, parce que Dieu faisait des œuvres, puis des miracles par-dessus miracles, et puis eux, ils restaient toujours là à murmurer. Puis au verset 10, ça dit, « Aussi, Dieu, c'est Dieu qui parle, il dit, « Je fus irrité contre cette génération, et je dis, « Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. » Et je veux vraiment qu'on prenne un temps là-dessus ce matin. Ils n'ont pas connu mes voies. Qu'est-ce que Dieu voulait dire vraiment par ils n'ont pas connu mes voies? C'est, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas compris mon mode d'action. C'est ça que ça dit dans le grec et dans l'hébreu. Ils n'ont pas connu ma façon d'agir. Ils m'ont pas connu, moi, avec mes avenues, mon chemin que je prépare devant eux. Ils m'ont pas connu. Ils ont vu. Et qu'est-ce que ça me disait? Moi, on va aller au psaume 95, parce que c'est la même, les mêmes écritures dans hébreu que le psaume 95. Et puis, je vais commencer à lire au verset 8. Et il dit ici, « N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût, et je dis, ce peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. » Tu sais, des fois, les gens vont dire ça, ils vont dire, « Ils ne me comprennent pas. » En réalité, ce qu'ils disent, c'est, « Ils ne me connaissent pas vraiment. Ils ne me connaissent pas. » Puis moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est marqué ici, au verset 9, « Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils aient vu mes œuvres. » Et ça me disait ceci, le monde, ils peuvent voir Dieu agir dans leur vie. Eux autres, les Israélites, ils voyaient la manne qui était sur le sol à tous les matins. Ils voyaient l'eau couler du rocher. Ils ont vu Dieu qui les a sortis avec toutes les richesses d'Égypte. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Malgré qu'ils voyaient les œuvres, ça dit qu'ils n'ont pas compris les voies de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent voir des miracles dans leur vie, puis ils ne sont même pas capables de reconnaître qui est Dieu au travers de ça. Dans les moindres, je peux vous dire que dans les moindres petites choses de ma vie, que je me lève un matin, puis je ne sais pas, moi, quand mon mari me donne un bec, « Waouh, merci Seigneur, je reconnais Dieu! » Mais je veux dire, dans les moindres petites choses, de bonnes, tout ce qui est bon vient du Père des Lumières, amen. Je connais Dieu, je reconnais ses voix, je sais, amen. Comment c'est important? Il y a quelqu'un qui me fait rire, là. Oh, gloire à Dieu. Mais connaître Dieu. Mais voyez-vous, malgré tous les miracles qui ont eu lieu en Égypte, pour les sortir de là, durant qu'ils étaient dans le désert, il dit, malgré toutes mes œuvres, ils ne reconnaissaient pas mes voies. Autrement dit, ils ne reconnaissaient pas la façon d'agir de Dieu, sa manière de faire les choses. Ils n'étaient pas capables de reconnaître Dieu. Après qu'il y avait la manne, bien là, ils étaient tannés, ils voulaient avoir de la viande. Au lieu de reconnaître, amen, ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens que je me suis aperçue, à force de méditer là-dessus, après ça, il y a des exemples que, dans le naturel, de gens qui ont vu les œuvres de Dieu dans leur vie, ou dans leur famille, ou dans leur finance. Puis tu les entends parler, puis ils parlent encore mal. Ils vont dire, « Oh, je ne sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu, là. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, le Seigneur n'a pas l'air d'entendre mes prières trop. » Bien, tu ne connais, tu montres que tu ne connais pas Dieu si tu parles comme ça. Tu montres que tu ne connais pas Dieu. Puis les Israélites, c'est ce qu'ils ont dit à un moment donné dans Deutéronome 1. On a lu cette écriture avec le groupe, amen, dans Deutéronome 1, au verset 27. Ça, c'est un jour qu'ils chiolaient là, dans leur tente, là, parce qu'ils étaient tannés, encore une fois, de ne pas avoir toutes les choses qu'ils voulaient avoir. Et puis, au verset 27, ça dit, « Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, « C'est parce que l'Éternel nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. » Je vais vous dire quelque chose, tu as un sérieux problème. Quand tu arrives à la place, que parce que ça va mal, Dieu n'a jamais dit, si vous venez au Seigneur Jésus, vous allez voir, vous allez embarquer sur un tapis roulant, puis dorénavant, la vie va se dérouler autour de vous, vous allez faire juste avancer, puis alléluia, alléluia. Il n'a jamais dit ça. Puis c'est pas ce que l'apôtre Paul, on a lu tantôt. Il dit, malgré tout ce que tu peux passer au travers, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Parce que Dieu, j'ai l'assurance que peu importe ce que je passe au travers, je connais Dieu, je connais son amour, je le sais qu'il va m'en faire sortir, je le sais qu'il va m'amener à réussir, je le sais qu'il va me faire gagner, je le sais qu'il va me tirer de mes détresses, je le sais que je le sais que je le sais parce que je connais Dieu. Mais voyez-vous, les Israélites, eux autres, à chaque fois que ça allait mal, ils voyaient les œuvres de Dieu. Ils les voyaient, les œuvres de Dieu. Mais Dieu dit, ils ne reconnaissaient pas mes voix. Ils ne me reconnaissaient pas au travers de tout ça. Puis à chaque fois qu'une autre chose se présentait qui n'était pas tout à fait à leur goût, ils aimaient bien ça du pain, mais là, il manquait de la viande. C'était un hamburger qu'ils voulaient. Mais là, ils commençaient à chialer. « Oh, je le sais que Dieu il doit nous haïr. » Tu penses-tu que Dieu il change d'idée? Ça, il se lève un matin de son trône, puis il se rassit sur son trône, puis il dit « Là, c'est un, je vous haïs. » Tu sais, je veux dire, tu connais-tu Dieu ou tu ne le connais pas? C'est important de connaître Dieu. Amen. Très important de connaître Dieu. Alors, les Israélites, ils ne voyaient pas eux autres l'amour de Dieu au travers de ça, pour parler comme ils parlaient. Pour dire, ils étaient... Mais il me semble que si ça... On sait que tant qu'on vit dans ce monde, on va être exposé. Amen. À toutes sortes de choses. On sait le prince de ce monde, c'est le diable. Amen. Puis la parole de Dieu nous dit dans Jacques que nous sommes exposés à toutes sortes d'épreuves. Amen. Mais de regarder ça avec un sujet de joie, parce qu'on sait quelque chose. Qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on connaît Dieu, puis on sait que Dieu va nous tirer de tous nos problèmes. Amen. Alors, tant qu'on vit dans ce monde, on est exposé. Il y a de la maladie, il y a des microbes, il y a des situations économiques, il y a des vols, des viols, il y a toutes sortes de choses. Il a inventé une nouvelle drogue là, qui est encore pire que les autres, là. On a vu ça à la TV. Il y a toutes sortes de choses. Il y a du monde qui sont croches, il y a de la politique. On est exposé à ça. Alors, des fois, ça arrive que ça se rend jusqu'à nous. Ça dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Amen. Mais on est exposé à ça. Alors, c'est sûr que... Mais il faut connaître que Dieu nous aime. Je parlais avec Zinash la semaine passée, et puis elle m'expliquait quelque chose. Puis j'aime ça que... Moi, j'apprends tout le temps. Tout le temps. Parce que mes oreilles veulent apprendre. Amen. Puis mon cœur veut grandir puis changer. Puis elle dit, quand j'ai parti de l'Éthiopie, puis après ça, je me suis en allée en Italie, eh bien, je me suis aperçue qu'il fallait que je m'adapte à la place où j'arrivais. Je suis maintenant dans ce pays-là, mais j'ai pas raison de demander qu'on fasse comme c'était dans mon pays. Parce qu'il fallait que je m'adapte à ce pays-là. Puis elle dit, quand je suis arrivée au Canada, il a fallu que je m'adapte au Canada. Parce que maintenant, le Canada devenait mon pays. Puis là, elle dit, sais-tu, elle dit, c'est la même chose avec le royaume des cieux. Elle dit, parce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, partir de 10, 11, 12, 13, là, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints et vous a délivré de la puissance des ténèbres puis transporté dans le royaume de son Fils. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On appartient déjà à Dieu. On est déjà là, en haut, dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, si j'appartiens à Dieu, puis que je suis rendue déjà citoyenne des cieux, même si je vis encore parmi ce monde, bien, je devrais m'adapter à ma nouvelle citoyenneté. Amen. C'est assez bon? On va en faire prêcher à un moment donné. Amen. Alors, j'ai dit, c'est bon, prêche ça, ma belle, parce qu'elle prêche beaucoup à des gens de son pays. Amen. Mais voyez-vous, on appartient à Dieu, et c'est ça que les Israélites, qui était leur problème, c'est que continuellement, ils voyaient les problèmes, mais ils ne s'apercevaient pas des voies de Dieu, ils ne s'apercevaient pas du Dieu qui prenait soin d'eux autres. Il dit, ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas connu mes voies, ils n'ont pas connu ma façon d'agir, ils n'ont pas connu comment je les prenais soin, comment je les délivrais. Puis pourtant, dans Osée y aller, là, c'est juste un petit chapitre juste avant Joël. Mais si tu recules par l'Ancien Testament, là, recule, c'est pas long. OK? Osée 11. Et puis, voyez-vous, au verset 1, ça dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Voyez-vous, quand il parle du peuple d'Israël, il met en une personne Israël. Amen. Puis il dit, « Je l'appelais hors d'Égypte. » Puis au verset 4, il dit, « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité et avec des cordages d'amour. » Voyez-vous, eux autres, ils n'ont jamais vu ça. Il dit, « Je l'ai tiré avec des cordages d'amour. » Puis vous avez bien, on a bien lu, pas avec une corde, des cordages. Puis j'avais enseigné encore une fois le mercredi soir, je disais, « Vous devriez venir le mercredi, c'est bon. » Et puis, j'avais apporté toutes sortes de cordes. Une que j'avais faite avec une bobine de fil, des petits pitons, là, des petits clous là, qui fait comme une grosse corde tressée, puis une autre sorte de corde. Puis j'ai dit, Dieu, il utilisait toutes sortes de cordages. Pas rien qu'une corde, toutes sortes de cordages. Et il dit, je l'ai tiré avec des cordages d'amour. Mais dans une autre écriture, il dit, mais ils n'ont pas connu mes voix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu que j'étais un Dieu d'amour. Mais voyez-vous, si on revient à l'apôtre Paul, il dit, « Moi, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. » Lui, il avait reconnu les cordages. Il avait reconnu les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont amour. Dieu est amour. Amen. Une des voies de Dieu aussi, c'est au-delà. Au-delà. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3:20, « Or à lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. » Moi, vous dire quelque chose, il pouvait les sortir d'Égypte, il était-tu obligé de les sortir avec toutes les richesses d'Égypte? Surtout qu'il savait qu'elle allait se faire un veau, là. Mais tu sais, il n'y avait pas grand centre d'achat hein, dans le désert, fait qu'ils ne savaient pas quoi faire avec leurs ors. Ils ont fait un veau. Mais Dieu, était-tu obligé de les faire sortir avec toutes les richesses d'Égypte? Il était-tu obligé qu'il n'y ait aucun faible parmi eux? Ceux qui étaient faibles, ils auraient pu s'asseoir d'un chariot pour les autres tirs. Aucun. Il dit aucun faible parmi eux. Toutes les richesses d'Égypte. Avec Dieu, c'est infiniment au-delà. Mais eux autres, ils n'ont pas vu les voies de Dieu. Ils n'ont pas vu que Dieu y est tiré avec des cordages d'amour. Ils n'ont pas vu que Dieu faisait infiniment au-delà pour eux autres. Ils n'ont pas vu que Dieu y a fait souffler un vent et puis qu'il y avait des cailles à peu près un mètre de haut puis je sais pas combien de milles de long tout le tour du camp. Ils en ont mangé jusqu'à temps que ça lui sorte par le nez. Ils n'ont pas vu. Ils ne voyaient pas l'abondance de Dieu, que c'est un Dieu au-delà. Dieu dit, ils n'ont pas reconnu mes voix. Ils n'ont pas reconnu comment je suis. C'est choquant. Mais c'est encore choquant aujourd'hui quand le monde ne le reconnaisse pas. Amen. Ces voix sont parfaites dans le psaume 18. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, si je vais au psaume 18 et je regarde le verset 31, ça dit, « Les voix de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Mais les voies de Dieu sont parfaites. » Amen. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dire, « Ça va-tu marcher? J'espère que ça va marcher. En tout cas, je me confie en Dieu, mais j'espère que ça va bien. » Tu n'as même pas besoin d'espérer. Ça va être parfait. Les voies de Dieu sont parfaites. Dieu, il sait où il s'en va avec son bessic. OK? On dit ça aux gens des fois. Tu sais tout où tu t'en vas avec ton bessic? Les voies de Dieu sont parfaites. Je veux juste vous montrer un exemple banal, mais c'est que Dieu voulait que je vous montre ça. Dans 1 Roi 17, voyez-vous, le prophète, il allait avoir une famine. Pendant 3 ans et demi, il ne pleuvra pas sur la terre. Alors, une sécheresse totale. Puis au début, on ne lira pas tout, mais au début, le Seigneur a dit à Élie, au verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, puis cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, puis j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, puis il allait là, puis les corbeaux apportaient du pain puis de la viande le matin, puis du pain puis de la viande le soir. Voyez-vous, par la foi, Dieu peut changer le cours de la vie d'un oiseau pour aller nourrir quelqu'un. Puis après ça, le torrent a séché. Puis la parole de Dieu a dit au verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui s'appelle, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et il se leva et alla à Sarepta. Puis on sait très bien que, comme il était à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Puis il dit de nouveau, « Apporte-moi maintenant un petit pain. » Puis là, la femme elle lui a répondu, « Je n'ai rien qu'une poignée de farine puis un peu d'huile dans un pot. » C'est pour moi et pour mon fils, on va manger, puis après ça, on va mourir. Puis il dit, fais-en un à moi en premier, puis tu vas voir que ton pot, il ne se videra pas, puis ton huile, elle va rester pleine. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Bon, quand on parle des voies parfaites de Dieu, là, les gens pourraient regarder ça, puis dire, pourquoi ça fait qu'il ne l'a pas envoyé à Sarepta tout de suite? Tu sais, je veux dire, tant qu'à aller au bord du torrent, puis rester là, puis attendre que les corbeaux arrivent, puis après ça, quand ça sèche, bien là, va-t'en s'arrêta. Il arrête aussi bien d'y aller tout de suite. Voyez-vous, c'est parce qu'on ne connaît pas les voies parfaites de Dieu. Parce que la veuve n'était pas prête s'il y avait arrivé avant. Elle n'était pas prête. Vous savez, quand une personne est rendue au bout du rouleau, puis là, elle est désespérée, puis là, elle s'en va ramasser un petit peu de bois, puis là, il n'y a plus rien à faire, elle est rendue au bout. Mais si la parole du Seigneur lui arrive, waouh, là, elle est prête. Qui dit qu'elle aurait été prête tant qu'elle avait de la farine? Et de l'huile dans son pot. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a bien des gens que quand ça va bien dans leur vie, tu leur présentes le Seigneur ou une parole qui pourrait les amener encore plus haut, puis ils sont pas prêts. Combien de vous savez ça? Mais quand ça va mal, ils sont prêts. Mais voyez-vous, Dieu voulait prendre soin d'elle, puis Dieu savait qu'il y aurait un moment dans sa vie où elle serait prête. Fait qu'il a dit à la prophète, reste là au bord du torrent jusqu'à temps que je te le dise. Alors, il y avait la provision. Puis même le prophète apprend à être à la bonne place au bon moment. S'il aurait dit, « Oh, bien, écoute, c'est bien beau le torrent, mais moi, j'aimerais mieux m'en aller en ville. De toute façon, Dieu est avec moi, puis n'importe quoi que je lui demande, il va me le donner. » Mais on va vous dire de quoi, il y a une chose qui s'appelle avec Dieu aussi, l'obéissance. Puis s'il dit, « Va là, c'est là. » Amen. S'il arrêtait à Sarepta, les corbeaux seraient arrivés là, puis ils auraient dit, ben, il n'est pas ici, on va manger. Nous autres, de toute façon, on a été ordonné d'apporter des hamburgers matin et soir. On les mange. Amen. Mais voyez-vous, ça veut dire quoi l'histoire que je viens de vous dire pour vous montrer que les voies de Dieu sont parfaites? Ça veut dire ce qu'on pense, puis ce que Dieu, lui, sait, c'est deux choses différentes. Mais ça va toujours nous amener dans l'amour, dans le plus cassé, dans la délivrance, dans toutes ces choses-là. Amen. Les voies de Dieu sont agréables aussi. Dans Proverbes 3, 17, ça dit, « Car les voies de Dieu sont agréables. » Ce n'est pas désagréable. Amen. C'est pas triste. Non, mais les voies de Dieu sont agréables. Amen. Quand on connaît Dieu. Amen. Puis ces voies sont justes et véritables. Apocalypse 15, 3, ça dit que ces voies sont justes puis sont véritables. C'est vrai. C'est véritable. C'est véridique, autrement dit. C'est vrai. Amen. Et l'autre, ces voies sont incompréhensibles. On va aller à Romains 11, parce que je dois sauter un petit peu des étapes ce matin. Romains 11, et puis je vais lire le verset 33. Ça dit, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Voyez-vous, le monde incompréhensible, c'est là qu'ils sont arrivés puis on dit, « Oh, avec le Seigneur, c'est toujours mystérieux. On ne sait jamais. » Non, c'est pas ça que ça veut dire. Incompréhensible, ça veut dire, « Essayez pas de le figurer. » Ouais, mais là, j'ai besoin de 5 000 $ à tout prix. Peut-être que Dieu va parler à telle personne. Peut-être que Dieu va faire telle chose. Essayez pas de le figurer. Dieu va vous l'amener, puis c'est vous qui vous envoyez à la pêche pour pêcher le premier poisson, puis y ouvrez la bouche, il va le faire. Incompréhensible. Dieu, il a des idées tout le tour de la tête. Amen. Dieu, il a plein d'idées. Avez-vous remarqué que la plupart du temps que vous essayez de le figurer, c'est jamais de même que ça se passe? C'est ça que ça veut dire incompréhensible. Ça veut dire grandiose. Au-delà, on ne peut pas le figurer. Amen. C'est très important pour connaître Dieu. Je veux juste terminer avec ça. C'est important pour connaître Dieu. Et justement, Marie-France Varello, docteur Marie-France, elle me disait, la présence de Dieu change les cœurs. La puissance de Dieu change les circonstances. Retenez bien ça. Et c'est pour ça, parce qu'il faut que j'englobe mon affaire, c'est pour ça que c'est si important la louange. Amen. C'est si important, parce que Dieu habite parmi ses louanges. C'est si important que tout le monde soit préparé au max, parce qu'on veut amener une habitation pour la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu va changer les cœurs des gens. Voyez-vous, les Israélites n'étaient pas assez dans la présence de Dieu. Ils voyaient la puissance de Dieu, mais ils n'ont jamais reconnu Dieu parce que le cœur n'a jamais été changé. Mais la louange fait les deux. La louange amène la présence de Dieu, puis dans la louange, la présence de Dieu va changer les cœurs. Autrement dit, vous avez-vous déjà remarqué que des fois, durant la louange, durant qu'on chante, parce que ça fait partie de ta relation avec Dieu, Dieu dit « Entrez dans mes parvis avec un chant en vous. » Amen. La louange va emmener la présence de Dieu, puis ça fait fondre le cœur. C'est comme si à l'intérieur de toi, tu ressens l'amour de Dieu. Tu dis « Oh, c'est vrai, faudrait que j'arrêterais de chialer. » C'est vrai que Dieu y est bon. Oh, on dirait que là, il y a un nettoyage, puis le cœur, ils font. La présence de Dieu change les cœurs. La puissance de Dieu change les choses. Mais la louange amène les deux. Elle amène la puissance en manifestation et la présence pour changer les cœurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, ça a déjà arrivé ici des dimanches matins qu'on n'a pas arrêté de louer. Puis je le sais que dans ce temps-là, Dieu est après fait des miracles. Des fois, le monde dit, bon, c'était bon, un matin, on a loué, j'ai eu des frissons. Laisse faire les frissons, c'est ton cœur que je veux. Amen. C'est le fun, oui, oui, on a des réactions, oui, 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 quand le surnaturel touche au naturel, wouh! Mais on ne veut pas sortir d'ici juste avec une réaction. On veut sortir d'ici avec un cœur changé. Parce que si les Israélites avaient eu le cœur changé, et pourquoi je sais cela? Vous savez, à propos de Josué, peut-être qu'il y en a de vous qui ne l'avez jamais lu, mais je pense que c'est dans Exode 33, 11. Ça dit que quand Dieu visitait Moïse puis parlait avec lui, Josué, lui, resta là dans la présence de Dieu. Même quand Dieu y avait fini de parler avec Moïse, puis que Moïse était ressorti du camp, ça dit que Josué lui restait dans la présence de Dieu. Savez-vous ce qui se passait avec Josué? Son cœur changeait. C'est pour ça que quand Moïse envoyait les 12 espions aller visiter toute la ville, il y en a deux qui sont revenus avec un bon rapport, Josué puis Caleb, parce qu'il avait un cœur différent. Il connaissait Dieu. Amen. Il y avait un cœur différent. Puis quand un cœur différent et que la puissance de Dieu se manifeste, c'est merveilleux. Parce que tu es capable de lui redonner la gloire. Amen. Les Israélites n'ont pas été capables jamais de reconnaître les voies de Dieu parce qu'ils n'ont jamais été assez dans la présence de Dieu. Ils ont juste vu la puissance de Dieu. Mais moi, ici à l'Église, sur le roc, je veux qu'on voit les deux. Je veux qu'on ait la présence de Dieu pour changer nos cœurs, puis la puissance de Dieu pour changer nos vies. Amen? Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vais demander à Pasteur Brian de revenir. Oh.